l'école d'Ivry.
Bonjour, je m'appelle Maïssa et j'ai 8 ans.
Bonjour, je m'appelle Rose et j'ai 8 ans et demi.
Bonjour, je m'appelle Hicham, j'ai bientôt 9 ans.
Bonjour, je m'appelle Georges et j'ai 9 ans.
Nous sommes
en CE2B
à l'école Rosanne Franklin.
Voici le sommaire.
À 14h03,
compte avec moi les CE1A de l'école de Rosalind Franklin vont vous raconter une histoire qu'ils ont inventée, le renard qu'ils ne savaient pas partager.
À 14h10.
Actualité d'ici et d'ailleurs. Les CE1A de l'école Rosalind Franklin ont lu un jour une actu sur à quoi ça sert les lois.
À 14h20, reportage dans mon cartable. Le Conseil constitutionnel est garant des lois. En septembre dernier, les CM2B de l'école Maurice Thorez B ont visité les bâtiments du ministère de l'Éducation nationale. Nous suivons leur visite. À 14h30, demain, ma planète. L'Étal Solidaire est une association qui permet d'acheter des produits bio à prix coûtant. Explication de Jeanne Zerner et Fabienne Houdard.
À 14h45, les secrets de l'école. Les CM2B de Rosanne Franklin ont enquêté sur le métier de l'école. Bonne écoute!
Bonjour, nous sommes la classe de CE1A à Rosanine Franklin.
Bonjour, je m'appelle Tiffel.
Bonjour, je m'appelle Labas.
Bonjour, je m'appelle Madi.
Bonjour, je m'appelle Mamoudou.
Bonjour, je m'appelle Zeynep.
Bonjour, je m'appelle Thomas.
Bonjour, je m'appelle Ismaël.
Bonjour, je m'appelle Adam.
Le renard qui ne savait pas partager. Il était une fois un renard qui se baladait dans une forêt. Il portait un plateau rempli de pâtisseries appétissantes et colorées qui formaient une pyramide. Il en était très fier.
Cette dernière rencontra un sanglier qui lui demanda
« Hé, toi, est-ce que tu pourrais me donner un gâteau, s'il te plaît ?»
Le renard continue son chemin comme si de rien n'était.
Un peu plus tard, en mangeant un gâteau, il rencontra un râteau laveur qui lui supplia.
« S'il te plaît, je pourrais avoir une pâtisserie, monsieur le renard ?»
Le renard continue à nouveau son chemin comme si de rien n'était.
Ensuite, le renard rencontra une lapine qui saute pour rattraper un gâteau. Raté, le renard énervé voulait pas partager. Il ne prêtait attention à personne et poursuivit sa route.
Tout à coup, il tomba dans un trou. Le sanglier se demanda où était passé le renard et pourquoi les gâteaux étaient par terre. Il appela le raton laveur qui vit le renard au fond du trou. La lapine arriva et tout cherchait comment sortir le renard de son piège. Les trois amis formaient une chaîne pour tirer le renard de son piège. Puis les trois animaux, après avoir réussi leur sauvetage, ramassaient les gâteaux pour refermer la pyramide. Le renard reprit sa route avec ses gâteaux, laissant derrière lui les trois amis bien tristes. Après avoir réfléchi, le renard revint sur ses pas, offrit ses pâtisseries aux trois animaux qui l'avaient aidé. C'est ainsi que le renard a appris à partager. Ouais,
texte collectif classe de CM1A.
Bonjour, une petite interruption pour écouter une chanson de Fonfred et Becker, Les mots nouveaux. Et puis on écoutera à 14h10, comme prévu, les actualités.
Je veux les apprendre, faites-les-moi connaître, mettez-les-moi en tête. N'attendez pas qu'il soit trop tard, je n'ai pas le temps, demain serait grand, j'ai besoin de vous et puis chez vous. De bien belles phrases et vous les offrir. Alors s'il vous plaît, hâtez-vous. Plus on en sait, évidemment, le temps de la lecture devient jeu d'enfant et l'on devient les mots sur les livres sont bien appétissants. J'ai faim, j'ai soif, je veux manger. Je suis le glouton jamais rassasié des mots nouveaux que vous me donnerez. N'existerait plus, ne comprendrait plus. Quel joli cadeau, le son des mots nouveaux. Grand, j'ai besoin de vous, dépêchez-vous. Je veux construire avec les mots de bien belles phrases et vous les offrir. Alors s'il vous plaît, hâtez-vous. Offrez-moi des mots
l'actualité
d'ici et d'ailleurs.
Bonjour, je m'appelle Leïd et j'ai 7 ans.
Bonjour, je m'appelle Madi et j'ai 7 ans.
Bonjour, je m'appelle Agile et j'ai 8 ans.
Bonjour, je m'appelle Ismaël et j'ai 8 ans.
Un jour, une actu, à quoi ça sert les lois? La première page du journal est de couleur verte. Le titre « À quoi ça sert les lois ?» est inscrit au centre de la page. 10 illustrations entourent le titre. On voit en premier un oiseau blanc. C'est une colombe. Elle représente la paix. On comprend que les lois sont là pour nous permettre de vivre en paix, pour organiser notre société. Il y a aussi un papier où c'est écrit « Loi numéro 23, article 1 ». Les lois sont écrites. Elles sont les mêmes pour tout le monde. Les lois sont écrites pour que personne ne puisse dire que cette loi n'existe pas.
On voit un juge, on le sait, parce qu'il porte une robe noire et une écharpe et une perruque. Il tient un livre, on pense que c'est le livre des lois. Le juge dit ce que le voleur va devenir s'il va en prison, s'il perd des points, s'il change de pays ou si on le laisse tranquille et que c'est sa dernière chance. Le juge, c'est celui qui donne une sanction si on ne respecte pas les lois. Il y a aussi le marteau du juge, c'est un symbole de la justice, car sans les lois, il n'y aurait pas de justice.
On voit une balance, le symbole de la justice. C'est pour l'égalité entre tout le monde. Le symbole qui dit qu'on a tous les mêmes droits et qu'on doit tout respecter dans les mêmes règles. Il y a aussi des panneaux. On reconnaît le panneau stop, le sens interdit, le panneau qui dit attention aux piétons. Et un autre qui montre le sens circulation. Les panneaux, comme les lois, nous donnent des obligations et des interdictions. Elles nous empêchent de faire tout ce qu'on veut, sinon ce sera toujours la volonté du plus fort qui s'imposerait.
Pour finir, on voit deux personnes, un grand et costaud avec un plus petit. Ils se tiennent pour montrer qu'ils sont amis. Cette illustration montre qu'il faut se respecter et que les lois nous permettent de vivre ensemble et en sécurité. Alors, à quoi ça sert les lois? Sans les lois, dans la rue, ça sera n'importe quoi. Grâce aux lois, on peut tous vivre comme on le veut tant qu'on respecte les autres. Elles garantissent notre liberté et nous permettent de vivre tous ensemble, c'est-à-dire en société.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Voilà pour les actualités, et en attendant les rediffusions qui seront faites à 14h20 et 14h30, on écoute un conte musical d'Anne Sylvestre, Lala et le cirque du vent. Les morceaux qui s'appellent Pauvre grenouille et C'est mal fichu, c'est biscornu.
On a tiré dans les nuages au canon, a-t-on fait venir l'orage? Eh bien non, depuis quand n'a-t-il pas plu? On ne s'en souvient plus, depuis quand n'a-t-il pas plu? On ne s'en souvient plus. À Saint-Zic et sur Gadouille, on élevait des grenouilles. C'est original. Pour servir de baromètre, il était bon de les mettre au fond d'un bocal. Avec une petite échelle, si la journée était belle, la grenouille dormait. Si le temps était morose, elle voyait la vie en rose. Et elle escaladait à Saint-Zic et sur Gadouille. Aujourd'hui, aujourd'hui, où sont passées les grenouilles? Pas ici, pas ici. Quand il n'a plus jamais plu, elles ont disparu. Quand il n'a plus jamais plu, elles ont disparu. Pauvres grenouilles de Saint-Zic et sur Gadouille, et pauvres habitants attendant la pluie tout le temps. Pauvres grenouilles de Saint-Zic et sur Gadouille, et pauvres habitants attendant la pluie tout le temps. À Saint-Zic et sur Gadouille, il n'y a plus de grenouilles, tout le monde attend que reviennent les orages et que cesse le chômage, car pendant ce temps, les marchands de baromètres passent leur temps à la fenêtre et leurs magasins sont plus vides que leurs poches. Pour eux, le temps le plus moche, c'est un ciel serein, c'est un ciel serein. Pauvres grenouilles de Saint-Zic et sur Gadouille et pauvres habitants attendant la pluie tout le temps. Pauvres grenouilles de Saint-Zic et sur Gadouille et pauvres habitants attendant la pluie tout le temps.
Perché dans un arbre, un habitant de la ville surveillait le ciel. C'était un garçon très très grand, on l'appelait Cholao. En bas, il y en avait un autre qui, lui, était tout petit, c'était Bonsaï. Il venait d'arriver avec le cirque du vent. Et pour l'instant, il installait des tréteaux, des cerceaux, des ballons pour préparer la parade. Il leva le nez et...
Fais chaud là-haut ?
Qui m'appelle ?
J'ai simplement demandé, fais chaud là-haut ?
Eh, c'est mon nom ! Depuis toujours, les gens, quand ils me voient, ils disent chaud là-haut. Moi, je réponds, pas tant que ça.
Et que fais-tu là-haut ?
Je guette les nuages.
Les nuages, ça va, ça vient, ça passe ?
Quand il y en a ? Malheureusement, je ne sais même plus à quoi ça ressemble, un nuage. Il y a si longtemps que j'en ai pas vu.
Avant, il les reconnaissait, les nuages. Il les voyait venir de loin, il les appelait par leur nom. Hé, hey, Stratus ! Oh, Cumulonimbus ! Par ici, mes amis, par ici ! Et plus ils étaient gris, plus ils étaient lourds, plus il était heureux. Parfois, on aurait dit qu'un troupeau d'éléphants s'approchait dans le ciel. Et soudain, quand ils arrivaient au-dessus de lui, ce n'était plus que des édredons qu'un oiseau crevait de son bec. Et il se mettait à pleuvoir, à pleuvoir. Et les habitants de Saint-Ziquet riaient sous la pluie.
Ouais, c'était le bon temps.
Moi, mon nom, c'est Bonsaï. Je viens d'un endroit où tous les gens portent des noms d'arbres. Du chêne, du frêne, du bouleau. Et comme ils sont tous très grands et que je suis petit, ils m'ont donné le nom d'un arbre nain. Bonsaï.
C'était gentil.
Gentil. Il me marchait dessus sans arrêt.
Pauvre Bonsaï. Tout était trop grand pour lui. Ils avaient des pieds grands comme des péniches, des mains comme des planches à repasser, des crayons comme des poteaux télégraphiques, des patins à roulettes comme des TGV. Un jour, il avait vu une annonce. Cherche petit homme pour petit cirque, petit salaire. C'était Aïmondo et il l'avait engagé.
T'imagines pas que c'est drôle d'être aussi grand ?
Et Cholao raconta que quand il se couchait, il avait les pieds qui dépassaient du lit, que quand il s'asseyait, il avait les genoux sous le menton, et qu'on lui faisait faire toutes sortes de corvées. Accrocher les lampions, remplacer les tuiles des toits, sauver les chats dans les gouttières.
Je vivais chez des géants, qu'ils étaient grands, qu'ils étaient grands. Ils étaient démesurés, immenses de la tête aux pieds. Comme ils étaient gigantesques, moi je me disais quand est-ce que je m'en vais grandir aussi. Mais je suis resté petit, c'est mal fichu, c'est biscornu. Un peu de plus, on aurait pu vivre content, rien qu'en naissant chacun chez l'autre simplement. C'est désolant. C'est mal fichu, c'est biscornu, un peu de plus, on aurait pu vivre content, rien qu'en naissant chacun chez l'autre simplement, c'est désolant. Moi je vis chez des mini, qui sont petits, et depuis belle lurette, je leur mange la soupe sur la tête. Mais comme ils sont minuscules, moi je me sens ridicule. Je ne peux pas me couper les jambes pour appétisser. C'est mal fichu, c'est biscornu, un peu de plus on aurait pu vivre content, rien qu'en naissant chacun chez l'autre simplement, c'est désolant. C'est mal fichu, c'est biscornu, un peu de plus on aurait pu vivre content, rien qu'en naissant chacun chez l'autre simplement, c'est désolant.
Les musiciens qui accompagnaient le cirque, c'était la gratte, un garçon qui jouait de la guitare, et la poume qui, elle, jouait du tuba. Pas du très gros tuba, cependant, à cause de la taille du cirque. Et puis, il y avait Aimondo, le directeur du cirque, qui était toujours grognon, toujours de mauvaise humeur.
Alors, parade, ça vient ? Va se faire tout seul, oui ! Banzaï, hein ?
Oui, patron, on y va, patron.
Et le cage ? Où sont le cage, hein ? Jamais travaille, Banzaï !
On y va, patron, on y va, hein ! Envoyez les cages !
Et cette gratte et ce pomme, jamais travaille non plus, hein ! Dormir toujours !
Voilà, patron, on peut pas aller plus vite que la musique.
Oh, bravo, la gratte, c'est nouveau, ça.
Et travaillez, là, hein ! Grattez, paumez, hop !
Oui, patron.
Cholao, qui s'était caché à l'arrivée d'Aimondo, était très intrigué.
Vous êtes encore nombreux ?
Nous sommes tout un cirque.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour, aujourd'hui nous allons au Palais Royal, accompagnés de deux ingénieurs du son, Inaya et moi, Caliste.
Et deux journalistes, Kélana et Adam. Nous faisons un reportage pour Radio Cartable.
Bonjour, nous on est les hôtesses d'accueil. Donc moi c'est Mélina, elle c'est Clémence. Et on travaille dans une agence d'événementiel. Donc on travaille dans plusieurs événements et on fait de l'accueil principalement.
Et aujourd'hui on est là pour vous accueillir au Palais Merci. Royal.
Merci.
Que va être le programme d'aujourd'hui ?
Donc vous allez commencer avec une visite au ministère de la Culture. D'accord. Ensuite vous allez visiter le Conseil d'État. Et à la fin, vous allez visiter le Conseil constitutionnel.
D'accord.
Et j'ai une autre question. Il y a combien de temps cet endroit a été construit environ ?
Le 17e siècle. Quand ça a été construit, ça s'appelait le palais cardinal. Dans la religion catholique, c'est en gros celui qui est en dessous du pape. Et dans chaque ville ou région, vous avez un cardinal. Le cardinal en question s'appelait le cardinal Richelieu. Et en fait, il n'est pas plus religieux que ça. Hein, quand vous étiez de grande famille, très souvent, il y avait un des enfants qui devenait cardinal. C'est un vrai homme politique. C'est un peu comme le Premier ministre de maintenant. Il est au service d'un roi. Sauf qu'il va mourir assez vite. Et donc, il va léguer son palais à son cher roi qui était plus jeune que lui, Louis XIII. Donc ce palais cardinal devient le palais royal. Silence, parce qu'on va rentrer dans le ministère de la Culture. On a... À partir de la Seconde et la Troisième République, se sont installés au palais royal différents organes du pouvoir. Vous allez visiter le Conseil d'État juste après, le Conseil constitutionnel. À quoi ça sert un ministère de la Culture, à votre avis ? C'est fait pour faire quoi ? Déjà, il y a une première vocation. préserver le patrimoine. Le patrimoine, ça va être ce qu'on possède. Et le but, un des buts du ministère de la Culture, c'est de préserver le patrimoine ancien de la France. Donc, c'est une des missions. Vous m'aviez dit pour organiser, faire des choses. L'autre, comment dirais-je, but du ministère de la Culture, c'est de promouvoir la culture.
Du théâtre.
Du théâtre, c'est très bien, oui. Bravo, du cinéma. De la danse.
De la comédie.
De la comédie.
De la musique.
De la musique. Absolument. Est-ce que vous aimez, vous connaissez la fête de la musique?
Oui.
Eh bien, c'est lui qui l'a créée.
Reportage dans mon cartable.
Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la loi. Il y a toutes les règles de ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Et du coup, il y a beaucoup de lois. Il y a des lois, par exemple, pour organiser l'école ou pour organiser un hôpital. Et c'est dans cette salle, souvent, où des hommes et des femmes discutent cette loi.
Nous visitons maintenant le Conseil d'État. Il exerce deux missions. D'abord, il conseille le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat dans l'élaboration de la loi. Ensuite, il juge les procès entre les citoyens et l'administration.
Reportage dans mon cartable.
C'est dans ce palais royal que Louis XIV a appris à chasser, il a appris à même faire la guerre, parce qu'ils avaient construit des petits châteaux dans les jardins. Ici, l'endroit où on se trouve, il est un peu plus récent, il date de 1831. Ici, avant, c'était un palais, et ici, c'était une salle de bal. D'accord ? Et alors, vous avez vu la décoration ? Ici, vous avez le portrait de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Et au-dessus de la porte, vous avez le symbole de l'Empire, qui est l'aigle. Donc c'est le siège du Conseil constitutionnel et on va continuer. C'est 9 membres, 9 juges. Il y en a 3 qui sont nommés par le président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée nationale. Et ils sont nommés pour 9 ans, ce qui est assez long. Et ils ont 2 missions. Vérifier que les lois qu'on applique, elles sont conformes à la Constitution, qui est la loi la plus importante, la super loi qui a été votée en 1958, et ils vont vérifier que les élections nationales se passent bien et qu'il n'y a pas de tricherie. D'accord ? Moi, je suis Guy Clairet, je travaille au Conseil constitutionnel depuis plusieurs années, je travaille dans un service qui s'appelle le service des relations extérieures, donc qui est là pour organiser les rencontres entre les membres du Conseil constitutionnel et les autres institutions à l'étranger ou les autres institutions en France.
Qu'est-ce qu'une QPC ?
Alors, une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité. C'est quelque chose d'assez récent, ça a 10 ans, 12 ans maintenant. Il y a eu un changement de la Constitution. La Constitution, c'est la loi la plus importante, ce qu'on appelle la loi fondamentale, qui a été votée en 1958 et adoptée par tous les Français. Et la question prioritaire de constitutionnalité, en fait, c'est une question qui peut être posée par un citoyen et qui va demander au Conseil de vérifier que le texte qu'on veut lui appliquer dans un procès, que ce texte respecte bien les droits et les libertés définis par la Constitution. Alors, par exemple, il va dire « Oh, mais là, vous voulez m'appliquer une loi alors qu'on dans un procès, et cette loi, moi, je trouve qu'elle est contraire à mon droit et à mes libertés. Est-ce que le Conseil constitutionnel peut vérifier ça ?»
Savez-vous pourquoi ça s'appelle le Conseil constitutionnel ?
Conseil constitutionnel, ça a été inventé, en fait, en 1958, quand on a écrit la Constitution. Des conseils constitutionnels, il y en a à peu près partout dans le monde, dans presque tous les pays. Alors, de temps en temps, ça s'appelle Conseil constitutionnel ou Cour constitutionnelle ou Cour suprême. Et en fait, ça s'appelle Conseil constitutionnel en France parce qu'on pensait que ce n'était pas des vrais juges, donc on ne voulait pas appeler ça Cour, mais c'était quand même des gens qui étaient là pour faire respecter des textes. Et comme ce n'est pas des juges, on appelle ça Conseil. Et constitutionnel parce que le seul texte de référence, la seule chose qu'il doit vérifier, c'est si les lois, si les élections ils sont conformes à la Constitution.
Ben merci de nous avoir accueillis ici.
Et on est très ravis de la visite.
Moi, j'étais très, très content de pouvoir vous accueillir aussi et de savoir que vous avez pu découvrir un palais que je trouve incroyable. À très bientôt et rentrez bien dans votre école.
Ça y est, on rentre. Cette sortie a été vraiment spéciale.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Demain, ma planète, j'en prends soin aujourd'hui.
Regarde un peu les survivants. Ils ont des larmes au fond des dents. Ils voudraient changer d'autoroute. Mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend.
Bonjour, nous sommes les élèves de CM1A de la classe de Nathalie Médeville à l'école Maurice Thorez B. Je m'appelle Léo et avec moi il y a Émilie, Stessa et Riyad.
Cette année, notre projet de classe s'appelle « Demain ma planète, j'en prends soin aujourd'hui ».
Nous avons réfléchi ensemble à toutes les choses que nous faisons chaque jour et qui augmentent la pollution de notre planète.
On s'est aussi demandé quelles choses nous pouvions améliorer dans nos habitudes afin de préserver notre planète.
Dans notre équipe, nous avons décidé de travailler sur les aliments. On a vu que beaucoup d'aliments que nos parents achetaient au supermarché peuvent polluer car ils viennent de très loin.
On a vu aussi que certains aliments n'étaient bons ni pour nous ni pour notre planète car ils contenaient beaucoup de pesticides.
Alors on s'est intéressé aux associations qui cherchaient des solutions comme nous.
Et on a découvert les affiches de votre association avec la maîtresse.
Donc on a préparé plein de questions pour mieux vous connaître.
Mais on vous laisse d'abord vous présenter pour les auditeurs de Radio Cartable.
Moi je suis Jeanne Zerner, je suis élue du quartier du Petit Ivry pour la ville d'Ivry et je suis accompagnée de Fabienne qui va se présenter juste après moi. Je suis membre fondateur de l'Étale Solidaire qui n'a pas toujours été une association parce qu'au départ c'est une émanation du comité de quartier du Petit Ivry où les habitants du Petit Ivry sont invités à venir discuter de projets qui leur tiennent à cœur et un des projets était... Une des discussions qu'on a eues était comment est-ce qu'on permet à tout le monde de se nourrir mieux et quelles sont les possibilités. C'est comme ça qu'en cherchant, on a fini par se dire mais il faudrait pouvoir vendre des légumes de vraiment bonne qualité, mais à des endroits où il n'y a pas de magasin pour les vendre. Et c'est comme ça qu'on a décidé de commencer à vendre au sein de la cité Pierre et Marie Curie des légumes. Alors on peut pas vraiment dire qu'on les vend, on aide un producteur à les vendre sur place, un producteur bio qui vient de pas très loin, mais quand même, ça fait quand même 3 heures de voiture, mais c'est pas si loin que ça, parce qu'en Ile-de-France, il y a déjà beaucoup de producteurs qui sont pris par des associations qui veulent avoir des bons légumes. Et voilà, lui, il vient du Pas-de-Calais, et je vous en dirai plus après.
Alors moi, je m'appelle Fabienne Houdard, je vis en centre-ville, au niveau de la place Voltaire, juste à côté de la médiathèque. Nous avons commencé l'étale solidaire, le principe de vendre à prix coûtant et des légumes bio et de provenance proche, il y a 5 mois maintenant. Donc une fois par mois, le dimanche matin, les habitants du centre-ville se réunissent, enfin une bonne quantité des habitants du centre-ville se réunissent de façon bénévole et nous jouons aux marchands de légumes.
Je m'appelle Dionysio. Pouvez-vous nous présenter votre association ?
Alors, donc, l'Étale Solidaire est une association qui s'est créée véritablement en tant qu'association au printemps 2017, mais on a commencé les ventes en décembre 2016. C'est une association qui compte plus d'un millier d'usagers maintenant, 500 adhérents et plus de 100 bénévoles. Ce qui est très important, quand on a commencé, on était une petite dizaine. Donc, cette association s'occupe de permettre de vendre à tout le monde, sans aucune distinction, des légumes bio, la plupart du temps, en tout cas de circuit court.
On peut peut-être rajouter le principe de cette association par rapport à d'autres points de vente comme les AMAP, peut-être que vous en connaissez, où les gens, le principe des AMAP, c'est qu'on s'inscrit, donc on rentre dans une association, on s'inscrit et systématiquement on a un panier qu'on ne choisit pas. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple quand c'est l'hiver, puisqu'on mange que des produits de saison, on va avoir des carottes, des patates, des choux, des betteraves. La semaine d'après, des carottes, des choux, des patates, peut-être un peu de betterave, un peu de panais, et ainsi de suite. Et à la fin de l'hiver, on n'en peut plus parce qu'on a mangé des choux, des carottes. Hein. Alors que le principe de l'étal solidaire, c'est qu'une fois que les gens viennent, ils choisissent ce qu'ils veulent acheter. S'ils veulent acheter juste quelques carottes, ils achètent que quelques carottes. Ils ne sont pas obligés de repartir avec le chou, les patates. Mais on n'est pas obligé d'être adhérent pour acheter. On peut vraiment venir un dimanche et se dire, ben voilà, moi j'ai envie de voir ce qui se passe et je prends un kilo de pommes et je m'en vais avec mon kilo de pommes, après l'avoir payé, bien sûr.
Je m'appelle Minsou. Pourquoi avez-vous décidé de vendre des légumes et fruits bio ?
Ben voilà, les pesticides, c'est pas bon du tout pour la santé, maintenant tout le monde le sait. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir mettre à disposition de tout le monde des produits bio. Après, le problème des produits bio, c'est que généralement, en tout cas dans le commerce, c'est beaucoup plus cher. Parce que, ben voilà, la société se dit, en tout cas les gens qui font du commerce disent, ben, si les gens veulent du bio, ben, ils n'ont qu'à payer. Pour les autres, il y a le tout venant. Et nous, notre idée, c'est de dire, oui mais non, nous on veut du bio pour tout le monde. Voilà pourquoi on a décidé de vendre du bio, d'aider à vendre du bio un peu partout, à des endroits où normalement il n'y a pas cette possibilité-là.
Je m'appelle Riyad. Pourquoi les aliments bio sont meilleurs pour notre santé ?
Alors, les aliments bio, ils sont bons parce que, voilà, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas tout ça, tous les mots qu'on a utilisés tout à l'heure. Mais il y a aussi, alors bio et local, moins on utilise des avions, des paquebots pour manger des légumes. Alors, ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas évident, mais pour notre santé et la santé de nos enfants et la santé de nos petits-enfants, ça aussi, c'est important.
Bonjour, je m'appelle Djalamba. Comment savoir si vos aliments n'ont pas de pesticides ?
Voilà. D'abord, c'est sur la confiance, mais alors justement, c'est une des raisons pour lesquelles, très rapidement, on a organisé des visites de l'exploitation du producteur avec qui on travaille, Didier Ringeval.
Après, c'est la transparence. C'est pour ça que la visite de l'exploitation, c'est vraiment intéressant. C'est de voir, de comprendre comment pousse une carotte, comprendre pourquoi il faut arracher l'herbe à la main plutôt que mettre du Roundup dessus.
Je m'appelle Nargis. À quoi reconnaît-on les légumes bio ?
Premièrement, la grande différence entre des légumes qui ont été faits avec agriculture intensive, avec plein de produits, tout ça, c'est que les légumes bio sont différents. Ils vont pas être tous parfaits. Ils vont être petits, ils vont être un peu plus gros, ils vont être tordus, ils vont être tachetés parce qu'ils ne vont pas se garder de la même façon. Et on les reconnaît parce qu'ils ne sont pas tous pareils.
Je m'appelle Marvin, d'où viennent tous vos légumes ?
Nos légumes, très très majoritairement, ils viennent de Barastre, dans le Pas-de-Calais. Fabienne va vous montrer sur la carte, c'est tout en haut de la France, voilà, par là. Et c'est vrai qu'en hiver, vous aimez bien manger des oranges, des clémentines. Ça ne se fabrique pas du tout en région parisienne, ni même dans le nord de la France, ni même à 3 heures autour de Paris. C'est le sud de l'Italie ou l'Espagne, ça fait très loin. Et c'est un vrai débat qu'on a entre nous. Est-ce qu'on doit faire venir des fruits, des légumes de plus loin quand c'est des choses qu'on ne peut pas trouver ici sur place et que pourtant c'est le seul moment de l'année où c'est vraiment la saison ?
Moi, je trouve ça compliqué qu'on achète des clémentines qui viennent de loin. Même si elles viennent de Sicile et d'Italie et qu'elles sont bio, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est un peu compliqué. Parce que ça, c'est pas le principe initial pour moi, mais ça, c'est mon avis personnel, de l'étal. C'est vraiment pour moi la proximité qui est importante. Moins on déplace les légumes, mieux c'est pour nous, enfin pour la planète.
On doit réapprendre à manger ce qui pousse tout près de chez nous au moment où ça pousse.
Je m'appelle Oumaïma. Quels légumes vendez-vous ?
En ce moment, à l'étal, nous proposons des carottes, des pommes de terre, des choux blancs, des choux verts, des choux rouges, des choux raves, des poireaux, des carottes, je l'ai dit déjà, des oignons parce que ça se garde bien tout l'hiver.
Des betteraves,
c'est aussi un légume d'hiver, des potimarrons, Alors, les différentes variétés de potimarron, de potiron, ça dépend des moments de la saison. Par exemple, le butternut, c'est plus en début d'hiver. Donc, si vous me posiez la question dans 6 mois, je vous dirais, on commence à vendre des courgettes. Bon, dans 6 mois, ce serait juillet. Je vous dirais, on commence à vendre des courgettes, des aubergines, des poivrons,
des tomates,
pas mal de salades, mais encore certains types de choux. Voilà, on vend les légumes de la saison.
Et les fruits, peut-être, parce que les fruits de saison, en hiver, c'est un peu triste. Hein.
On a des... C'est pas triste.
Bon, un petit peu quand même. Soyons clairs, c'est quand même mieux l'été, les fruits. Hein. Y a les pommes, plein de sortes de pommes, et les poires, plein de sortes de poires. Vivement l'été, où on pourra manger des fraises, parce que les fraises, ça se mange en été et pas en hiver. Les cerises, en été. Les pêches, en été.
Je m'appelle Mélissa. Quel autre produit vendez-vous ?
En fait, l'étal ne vend que des œufs en plus et du miel. Et c'est tout.
Et des légumes secs.
Mais c'est les légumes secs, des pois cassés, des lentilles, mais ça fait partie des légumes. Et c'est tout. Après, il y a d'autres produits qui sont proposés aux gens qui viennent, mais qui ne sont pas gérés, qui ne sont pas vendus par l'étal, par les bénévoles de l'étal. En général, l'étal est dans une salle fermée. Voilà. Et puis, autour de l'étal, il y a le marchand de bière, le marchand de pâtisserie bio, parfois une femme qui fait des acras bio. Il y a aussi qu'est-ce qu'il y a l'ostréicultrice, mais comme j'arrive pas à dire le mot, je voulais pas le dire. Donc c'est la personne qui vend des fruits de mer, genre huîtres, coquillages, etc. Et du pain. Il y a aussi des gens qui viennent qui vendent leur pain qui est bio. Et les confitures que j'oublie à chaque fois.
Pourquoi les gens choisissent-ils d'acheter des produits chez vous et pas au supermarché?
Parce que les gens se disent: ici, quand vous allez à l'étal solidaire, vous savez d'où viennent les légumes et au moins, on sait ce qu'on achète. Cette année, on ne l'a pas fait, mais les 2 années précédentes, avec des habitants du quartier, on est allé visiter la ferme de M. Rincheval à Barastre pour voir comment ça marche, comment est-ce qu'il fait pousser ses légumes. Et je pense que les gens, ça les rassure de venir acheter directement des produits dont on sait dire, voilà, c'est le monsieur là, vous voyez, avec la moustache, non, il n'y a plus de moustache, qui les fabrique sur sa terre, là-haut, dans le Pas-de-Calais.
Moi, je rajouterais aussi le côté convivial. C'est très vrai. De l'étal tous les dimanches à différents points de la ville, c'est que, en fait, petit à petit, les gens qui viennent bénévolement peser tout ça, discutent, se rencontrent, et puis après, ils amènent d'autres amis. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre qui est très joyeux dans la vente, parce qu'on fait quand même la queue, souvent il pleut, il fait froid parfois, mais il y a quelque chose de convivial, de joyeux. Et donc ça, c'est ce qu'on n'a pas au supermarché. Je pense que le côté très convivial, ça y fait beaucoup pour revenir.
Demain, ma planète, j'en prends soin aujourd'hui.
Regarde un peu les survivants. Ils ont des larmes au fond des dents. Ils voudraient changer d'autoroute, mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend.
Radio Cartable, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir.
Les secrets de l'école. Secrets de l'école.
Bonjour, je m'appelle Oscar et je suis en CM2A dans l'école Rosaline Franklin. Et on va poser des questions aux travailleurs de l'école. En classe, on a étudié ce qu'est un reportage. On a travaillé la phrase interrogative. Vous allez écouter une psychologue scolaire, une maître E, une professeure des écoles, 2 élèves, un responsable de la vie scolaire, un animateur, une ATSEM, une agent technique, une gardienne, une
AESH. On va apprendre des métiers qu'on ne connaissait pas. J'aime bien l'école parce qu'il y a des personnes gentilles qui m'aident.
Bonjour, je m'appelle Sofia. Je suis avec mon amie Myriam, l'ingénieure du son. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour présenter le travail de la gardienne de l'école à Rosaline Franklin.
Bonjour.
Sylvie, en quoi consiste votre métier ?
Alors, mon métier est assez vaste. D'abord, quand je travaille du matin, c'est moi qui ouvre toutes les portes et qui coupe l'alarme de l'école. J'ouvre toutes les portes des classes et je vérifie s'il n'y a pas de fuite d'eau, si les lumières sont bien éteintes, s'il n'y a rien de cassé dans l'école. Je redescends, j'ai mon ménage à faire, j'ai un peu de ménage à faire avant que l'école s'ouvre. Et à 8h moins le quart, je commence à ouvrir pour les centres de loisirs, les petits qui viennent le matin. C'est moi qui les accueille, côté primaire, côté maternel, il y a des agents qui les accueillent. Jusqu'à 8h15. 8h15, c'est l'heure où tous les gosses rentrent pour rentrer dans l'école. Et je m'occupe des petits quand ils sont en retard à 8h30. C'est moi qui les monte dans les classes. Je suis là, je surveille. Quand il y a des travaux, il y a des gens qui viennent pour les travaux. C'est moi qui leur indique où sont les travaux. Et je vérifie s'ils ont bien été faits. Une fois qu'ils ont bien été faits, je renvoie un bon. Comme quoi, tout a bien été fait. Voilà. Et j'ai aussi, dans la semaine, j'ai aussi les poubelles à sortir et les locaux à la poubelle à nettoyer.
Comment avez-vous été embauchée ?
Il y a longtemps que je suis rentrée à la ville. Je suis d'abord rentrée comme agent ATSL. Agent ATSL, c'est agent technique de loisirs, enfin scolaire et loisirs. C'est-à-dire que je faisais le ménage et la préparation des hors d'œuvre pour la cantine et tout ça. Et je fais ça pendant 10 ans, à peu près. Et maintenant, j'ai demandé à être gardienne parce que je voulais voir autre chose que la TSL côté cuisine. Donc gardien, ça me plaisait bien, je voulais voir comment c'était.
Aimez-vous votre travail ?
Bah, il est assez varié, il est sympa, ça va. Pour l'instant, j'aime bien. Mais c'est que la première année. Hein.
Combien de temps travaillez-vous chaque semaine ?
Bah, pour l'instant, on fait 35 heures pour cette année, mais l'année prochaine, on fera beaucoup plus. On fera à peu près 39 heures et quelques.
Quelles sont les compétences requises pour ce métier ?
La discrétion. Discrétion, la disponibilité. Déjà, c'est... Voilà. Après, être vraiment présent, quoi. Pour les enfants, pour les adultes, pour les parents, oui, il faut être présent, oui. La disponibilité, très important.
Merci d'avoir présenté votre travail. Au revoir.
Nous sommes Yanel, Raïssa et Vanessa. Nous avons réfléchi à des questions à poser à Léopoldine Lalu, qui est psychologue scolaire. Elle nous a répondu par écrit et nous allons vous lire ses réponses.
Quelle est votre mission dans l'école ?
Nous sommes des psychologues qui travaillons dans le respect des principes de la profession réglementée de psychologue.
Nous favorisons le développement des élèves pour qu'ils réussissent le mieux possible dans leur scolarité.
Et qu'ils soient heureux de venir à l'école. Que mettez-vous en place pour aider les enfants dans le besoin ?
Nous travaillons dans les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté RASED.
Et dans plusieurs écoles de la circonscription.
Nous contribuons à l'analyse de la situation de l'élève en lien avec sa famille et à l'ensemble de l'équipe pédagogique de son école.
Ensuite, nous aidons à concevoir et mettre en œuvre un projet personnalisé de scolarisation, c'est-à-dire un projet pour chaque élève qui correspond à ses besoins.
Faites-vous des exercices particuliers avec les enfants ?
Nous avons des outils et des méthodes adaptées à la situation de chaque élève, entretien, observation, bilan, psychométrique, etc.
Pardon, mais que signifie psychométrique ?
Ce terme scientifique est utilisé pour décrire une branche de la psychologie consacrée à la création et l'usage des tests.
On nous voit souvent nous déplacer d'école en école avec nos mallettes de test. Ce sont des outils qui permettent de mieux comprendre comment un enfant réfléchit, quels sont ses points forts et ses éventuelles difficultés. Quel genre de questions posez-vous à l'enfant ?
Cela dépend de la situation de chaque enfant. Nous sommes à son écoute et surtout avec un psychologue, il n'a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tout ce que l'enfant a à nous dire nous intéresse. Faites-vous ce travail en maternelle ?
Oui, bien sûr, nous intervenons dans les écoles maternelles et élémentaires.
Le travail en école maternelle est très important, car pour beaucoup d'enfants, c'est la découverte de la socialisation.
C'est aussi le moment des premiers apprentissages qui préparent à l'entrée à l'école élémentaire.
Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.
Quelle imagination, ça sort l'agence qui balance ses trésors. Pas de collier, pas de matricule, ça met le feu à ton vestibule. Prends sa lumière, choisis son heure, paye pas son écho au passeur. Elle passe quand même, ça vous épate, elle passe bien, même à quatre pattes. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Qu'elle boit, ça peut bien se chauffer, la chose qui se fait jamais coffrer. La petite cousine à Houdini quitte la rivière du fond de son lit. Dit, tu vas pas fermer maintenant, en plein cocktail. Rien d'étonnant à ce qu'elle leur glisse entre les doigts. Les hommes sans plume, les hommes de loi. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Qu'on n'a plus pour longtemps. Chienne d'idée, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idée qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idée, faut qu'on la pique avant. Avant qu'elle s'efface sous leur gomme, qu'elle participe à un sitcom, qu'elle se mélange à leur crayon, qu'elle sache plus jamais écrire non. Je voudrais que tu l'invites à boire, Oscar. Et me répète pas qu'il est trop tard. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant.
Bonjour, on est dans la séance Radio Cartable et je m'appelle Michel, je suis en CM2A, j'ai 11 ans, il y a ma collègue qui est en train d'enregistrer qui s'appelle Omaïma, qu'elle a 10 ans. On aurait 3 questions à poser à la maîtresse.
Bonjour, je m'appelle Claire, je suis enseignante remplaçante en CPCM2.
Et c'est un métier facile ?
Alors non, c'est pas forcément un métier facile parce que chaque année, enfin pas chaque année mais tous les 4 ans environ, le programme change, donc ça veut dire que ce qu'on doit faire avec une classe change. On ne peut plus faire ce qu'on faisait l'année d'avant, donc ça peut être compliqué puisqu'il faut savoir s'adapter. Il y a aussi quelque chose qui peut être difficile, c'est selon l'effectif de la classe. Si on a une classe de 13 CP, c'est plus facile de leur apprendre à lire que quand on a une classe de 22 CP. ce qui peut être un peu plus compliqué.
Ok, et la deuxième question est, en quoi consiste votre métier ?
Alors, c'est instruire les enfants de la maternelle au CM2. On enseigne bien sûr plusieurs disciplines, donc le français, les maths, les sciences, l'histoire, la géographie et l'EPS. Et j'essaye en tout cas moi de créer un rapport interactif avec les élèves pour les amener à réfléchir sur le monde qui les entoure.
Ok. La troisième question et la dernière. Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
Je suis dans ma 6e année.
Bonjour, je m'appelle Moine, je suis en classe de CM2A. Nous venons de l'école Rosaline Franklin. Et aujourd'hui, nous allons interviewer la directrice Maëva Siriez.
Bonjour, je m'appelle Lénie, je suis le technicien du son.
Bonjour, je suis Maëva Siriez, la directrice élémentaire de l'école Rosaline Franklin.
Bonjour, nous allons vous poser 4 questions. Quelle est votre mission dans l'école ?
La mission que j'ai dans l'école Rosaline Franklin, c'est tout d'abord un pilotage de l'école. Je suis également présente pour assurer la sécurité des élèves. Mon rôle, c'est également de faire le lien entre les familles, les élèves et les équipes. Alors les équipes, il y a plusieurs équipes à l'école. Il y a l'équipe technique, il y a les animateurs et il y a aussi les enseignants. Je travaille avec beaucoup de monde, y compris des personnes extérieures comme par exemple la mairie.
Ok. Quelles sont les compétences requises pour ce métier ?
Alors, les compétences requises pour ce métier, tout d'abord d'être bien organisé, ensuite d'être à l'écoute, de vouloir également initier des projets, donc avec toutes les équipes que j'ai évoquées précédemment. À l'école Rosaline Franklin, nous avons mis en place un projet concernant la cour végétalisée depuis l'année dernière. Vous avez vu le départ de ce projet-là qui continue également cette année. Et puis, il y a également eu cette année des élections d'éco-délégués avec des conseils d'éco-délégués, une mise en place de mascottes concernant le développement durable. Et il y aura aussi une semaine des défis qui sera réalisée au mois de mai.
Quelle est la formation à avoir pour ce poste ?
Je suis enseignante, donc un directeur d'école est enseignant. Au bout de quelques années, on peut passer un entretien qui nous permet d'être inscrit sur une liste d'aptitudes et de ce fait, nous pouvons être directeur d'école.
Et pour finir, ce travail est-il difficile ?
Alors, c'est un travail qui est passionnant. L'une des difficultés que je peux rencontrer, c'est du fait de l'organisation, car je suis à la fois directrice de l'école, mais également enseignante dans une classe de CP 2 jours par semaine, et donc à la direction 2 jours par semaine également.
Merci d'avoir répondu à nos questions, et à bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Les secrets de l'école. Les secrets de l'école.
À bientôt pour une nouvelle émission.
Bonjour. Avant Bibliomanie, nous avons un communiqué qui nous vient des éditions La Fabrique, mercredi 19 avril 2023. C'est aujourd'hui. Je vous lis le communiqué. Le responsable des droits étrangers de La Fabrique, c'est l'édition, Ernest, a enfin été libéré de sa garde à vue après son arrestation et sa détention par la police antiterroriste britannique à son arrivée à la gare de Londres. Nous sommes tous et toutes très soulagés qu'il soit maintenant libre, mais nous sommes également très choqués et inquiets de ce qui vient d'arriver. D'une part, Ernest n'est pas sorti d'affaire. Son téléphone et son ordinateur professionnel ont été saisis et sont restés entre les mains de la police britannique et vont en extraire toutes les données en vue de les analyser et de les exploiter. Plus grave encore, notre collaborateur est convoqué dans 4 semaines à Londres pour être présenté à la cellule antiterroriste britannique. L'antiterrorisme britannique est unique en Europe en matière de législation d'exception. Elle est la seule qui permette, sans aucune piste d'enquête, comportement suspect, poursuite ou même garde à vue officielle, d'interpeller, de détenir et d'interroger des justiciables qui s'exposent automatiquement à des poursuites judiciaires s'ils refusent de coopérer. Il offre aussi un cadre juridique très permissif aux policiers pour extraire la totalité des données de n'importe quel appareil informatique ou téléphone d'une personne interrogée. Malgré sa libération, notre collègue voit ses droits fondamentaux bafoués et sa vie soumise à un arbitraire d'État totalement opaque. D'autre part, Ernest a été interrogé pendant plusieurs heures et lui ont été posées des questions très troublantes. Son point de vue sur la réforme des retraites en France, sur le gouvernement français, sur Emmanuel Macron, son avis sur la crise du Covid, etc. Peut-être plus grave encore, lors de son interrogatoire, il lui a été demandé de nommer les auteurs anti-gouvernementaux du catalogue des éditions La Fabrique, maison pour laquelle il travaille. Au-delà de la situation scandaleuse de l'antiterrorisme qui enquête sur les intentions et la vision politique, ça y est, j'ai perdu, et la vision politique et philosophique de personnes en privation de liberté, aucune de ces questions ne devrait être pertinente pour un officier de police britannique. En outre, poser des questions aux représentants d'une maison d'édition dans un cadre antiterroriste sur les opinions de ses auteurs, c'est pousser encore plus loin la logique de censure politique et de répression des courants d'idées contestataires. Dans un contexte d'escalade autoritaire du gouvernement français, en pleine période de mouvements sociaux, cet élément fait froid dans le dos. Comment ces mesures sont-elles compatibles avec les principes fondamentaux dont se glorifient des pays comme la France et la Grande-Bretagne, comme la liberté d'expression ou les droits démocratiques ? Comment caractériser un régime qui permet qu'une personne se rendant à une foire internationale du livre à Londres soit détenue pendant près de 24 heures sans que rien de concret ne soit retenu contre elle et reste ensuite astreinte à une procédure antiterroriste pour une durée indéterminée? Pourquoi la police britannique se livre-t-elle à des interrogatoires dont les questions semblent lui avoir été soufflées par les services français? Doit-on supposer que, lorsqu'on voyage entre la France et le Royaume-Uni, il faut désormais craindre d'emporter avec soi son téléphone et son matériel informatique et s'attendre à ce qu'il soit saisi et fouillé par des services antiterroristes? Toutes celles qui attachent de l'importance aux principes démocratiques doivent s'inquiéter d'un symptôme aussi grave de l'évolution du maintien de l'ordre. Cette affaire marque un précédent pour toute personne qui exerce un travail intellectuel et dont la production peut être jugée gênante par le pouvoir. Si n'importe quel téléphone et ordinateur contenant des manuscrits confidentiels, des sources journalistiques ou sociologiques peut être subtilisé, intégralement analysé et décrypté par une police étrangère bénéficiant de prérogatives draconiennes du fait de sa législation d'exception, les libertés de la presse, académique, d'expression et les droits à la protection des données personnelles sont très sérieusement menacés. La Fabrique Édition exige l'arrêt de toutes les procédures et poursuites à l'encontre de son responsable des droits étrangers.